Cependant, ces jours de goûter, m'élevant dans l'escalier marche à marche, déjà dépouillé de ma pensée et de ma mémoire, n'étant plus que le jouet des plus vils réflexes, j'arrivais à la zone où le parfum de Madame Swann se faisait sentir. Je croyais déjà voir la majesté du gâteau au chocolat, entouré d'un cercle d'assiettes à petits fours et de petites serviettes damassées grises à dessin, exigées par l'étiquette et particulier aux Swann. Mais cet ensemble inchangeable et réglé semblait, comme l'univers nécessaire de Kant, suspendu à un acte suprême de liberté. Car quand nous étions tous dans le petit salon de Gilberte, tout d'un coup, regardant l'heure, elle disait « Dites donc, mon déjeuner commence à être loin, je ne dîne qu'à 8 heures, j'ai bien envie de manger quelque chose. Qu'en diriez-vous ? » Et elle nous faisait entrer dans la salle à manger, sombre comme l'intérieur d'un temple asiatique peint par Rembrandt, et où un gâteau architectural, aussi débonnaire et familier qu'il était imposant, semblait trôner là à tout hasard, comme un jour quelconque, pour le cas où il aurait pris fantaisie à Gilberte de le découronner de ses créneaux en chocolat et d'abattre ses remparts aux pentes fauves et raides, cuites au four comme les bastions du palais de Darius. Bien mieux, pour procéder à la destruction de la pâtisserie ninivite, Gilberte ne consultait pas seulement sa faim, elle s'informait encore de la mienne, tandis qu'elle extrayait pour moi du monument écroulé tout un pan verni et cloisonné de fruits écarlates dans le goût oriental. Elle me demandait même l'heure à laquelle mes parents dînaient, comme si je l'avais encore su, comme si le trouble qui me dominait avait laissé persister la sensation de l'inappétence ou de la faim, la notion du dîner ou l'image de la famille, dans ma mémoire vide et mon estomac paralysé. Malheureusement, cette paralysie n'était que momentanée. Les gâteaux que je prenais sans m'en apercevoir, il viendrait un moment où il faudrait les digérer. Mais il était encore lointain. En attendant, Gilberte me faisait monter. J'en buvais indéfiniment alors qu'une seule tasse m'empêchait de dormir pour 24 heures. Aussi ma mère avait-elle l'habitude de dire « C'est ennuyeux, cet enfant ne peut aller chez les Swann sans rentrer malade. » Mais savais-je seulement, quand j'étais chez les Swann, que c'était du thé que je buvais? L'eussais-je su que j'en eusse pris tout de même, car en admettant que j'eusse recouvré un instant le discernement du présent, cela ne m'eût pas rendu le souvenir du passé et la prévision de l'avenir. Mon imagination n'était pas capable d'aller jusqu'au temps lointain où je pourrais avoir l'idée de me coucher et le besoin du sommeil. Les amies de Gilberte n'étaient pas toutes plongées dans cet état d'ivresse où une décision est impossible. Certaines refusaient du thé. Alors Gilberte disait, phrase très répandue à cette époque, « Décidément, je n'ai pas de succès avec mon thé. » Et pour effacer davantage l'idée de cérémonie, dérangeant l'ordre des chaises autour de la table, « Nous avons l'air d'une noce, mon Dieu, que les domestiques sont bêtes !» Elle grignotait, assise de côté sur un siège en forme d'X et placé de travers. Même comme si elle eût pu avoir tant de petits fours à sa disposition sans avoir demandé la permission à sa mère, quand Madame Swann, dont le jour coïncidait d'ordinaire avec les goûters de Gilberte, après avoir reconduit une visite, entrait un moment après en courant, quelquefois habillée de velours bleu, souvent dans une robe en satin noir couverte de dentelles blanches, elle disait d'un air étonné « Tiens, ça a l'air bon ce que vous mangez là. Cela me donne faim de vous voir manger du cake. »« Eh bien, maman, nous vous invitons, » répondait Gilberte. « Mais non, mon trésor, qu'est-ce que diraient mes visites? J'ai encore Madame Trombert, Madame Cottard et Madame Bontemps. Tu sais que chère Madame Bontemps ne fait pas des visites très courtes et elle vient seulement d'arriver. Qu'est-ce qu'ils diraient, toutes ces bonnes gens, de ne pas me voir revenir ?» S'il ne vient plus personne, je reviendrai bavarder avec vous, ce qui m'amusera beaucoup plus, quand elles seront parties. Je crois que je mérite d'être un peu tranquille. J'ai eu 45 visites et sur 45, il y en a eu 42 qui ont parlé du tableau de Jérôme. « Mais venez donc un de ces jours, me disait-elle, prendre votre thé avec Gilberte. Elle vous le fera comme vous l'aimez, comme vous le prenez dans votre petit studio. » ajoutait-elle tout en s'enfuyant vers ses visites, et comme si ça avait été quelque chose d'aussi connu de moi que mes habitudes, fût-ce celle que j'aurais eue de prendre le thé si j'en avais jamais pris, quant à un studio j'étais incertain si j'en avais un ou non, que j'étais venu chercher dans ce monde mystérieux. « Quand viendrez-vous ? Demain ? On vous fera des toasts aussi bons que chez Colombin. « Non, vous êtes un vilain, » disait-elle, car depuis qu'elle aussi commençait à avoir un salon, elle prenait les façons de Madame Verdurin, son ton de despotisme minaudier. Les toasts m'étant d'ailleurs aussi inconnus que Colombin, cette dernière promesse n'aurait pu ajouter à ma tentation. Il semblera plus étrange, puisque tout le monde parle ainsi, et peut-être même maintenant à Combray, que je n'eusse pas à la première minute compris de qui voulait parler Madame Swann, quand je l'entendis me faire l'éloge de notre vieille nurse. Je ne savais pas l'anglais, je compris bientôt pourtant que ce mot désignait Françoise. Moi qui, aux Champs-Élysées, avais eu si peur de la fâcheuse impression qu'elle devait produire, j'appris par Madame Swann que c'est tout ce que Gilberte lui avait raconté sur ma nurse qui leur avait donné à elle et à son mari de la sympathie pour moi. « On sent qu'elle vous est si dévouée, qu'elle est si bien !» Aussitôt, je changeai entièrement d'avis sur Françoise. Par contre-coup, avoir une institutrice pourvue d'un caoutchouc et d'un plumet ne me sembla plus chose si nécessaire. Enfin, je compris par quelques mots échappés à Madame Swann sur Madame Blatin, dont elle reconnaissait la bienveillance mais redoutait les visites, que des relations personnelles avec cette dame ne m'eussent pas été aussi précieuses que j'avais cru et n'eussent amélioré en rien ma situation chez les Swann. Si j'avais déjà commencé d'explorer avec ces tressaillements de respect et de joie le domaine féerique qui, contre toute attente, avait ouvert devant moi ses avenues jusque-là fermées, pourtant c'était seulement en tant qu'ami de Gilberte. Le royaume dans lequel j'étais accueilli était contenu lui-même dans un plus mystérieux encore, où Swann et sa femme menaient leur vie surnaturelle, et vers lequel ils se dirigeaient après m'avoir serré la main quand ils traversaient en même temps que moi, en sens inverse, l'antichambre. Mais bientôt je pénétrais aussi au cœur du sanctuaire. Par exemple, Gilberte n'était pas là, monsieur ou madame Swann se trouvaient à la maison. Ils avaient demandé qui avait sonné, et apprenant que c'était moi, m'avaient fait prier d'entrer un instant auprès d'eux, désirant que j'usasse dans tel ou tel sens, pour une chose ou pour une autre, de mon influence sur leur fille. Je me rappelais cette lettre si complète, si persuasive que j'avais naguère écrite à Swann, et à laquelle il n'avait même pas daigné répondre. J'admirais l'impuissance de l'esprit, du raisonnement et du cœur à opérer la moindre conversion, à résoudre une seule de ces difficultés qu'ensuite la vie, sans qu'on sache seulement comment elle s'y est prise, dénoue si aisément. Ma position nouvelle d'amie de Gilberte, douée sur elle d'une excellente influence, me faisait maintenant bénéficier de la même faveur que si, ayant eu pour camarade, dans un collège où on m'eût classé toujours premier, le fils d'un roi, j'avais dû à ce hasard mes petites entrées au palais et des audiences dans la salle du trône. Swann, avec une bienveillance infinie et comme s'il n'avait pas été surchargé d'occupations glorieuses, me faisait entrer dans sa bibliothèque et m'y laissait pendant une heure répondre par des balbutiements, des silences de timidité coupés de brefs et incohérents élans de courage, à des propos dont mon émoi m'empêchait de comprendre un seul mot. Il me montrait des objets d'art et des livres qu'il jugeait susceptibles de m'intéresser, et dont je ne doutais pas d'avance qu'il ne passasse infiniment en beauté tous ceux que possèdent le Louvre et la Bibliothèque nationale, mais qu'il m'était impossible de regarder. À ces moments-là, son maître d'hôtel m'aurait fait plaisir en me demandant de lui donner ma montre, mon épingle de cravate, mes bottines, et de signer un acte qu'il reconnaissait pour mon héritier. Selon la belle expression populaire dont, comme pour les plus célèbres épopées, on ne connaît pas l'auteur, mais qui, comme elle, et contrairement à la théorie de Wolfe, en a eu certainement un de ces esprits inventifs et modestes, ainsi qu'ils s'en rencontrent chaque année, lesquels font des trouvailles telles que mettre un nom sur une figure, mais leur nom à eux, ils ne le font pas connaître. Je ne savais plus ce que je faisais. Tout au plus m'étonnais-je, quand la visite se prolongeait, à quel néant de réalisation, à quelle absence de conclusion heureuse conduisaient ces heures vécues dans la demeure enchantée. Mais ma déception ne tenait ni à l'insuffisance des chefs-d'œuvre montrés, ni à l'impossibilité d'arrêter sur eux un regard distrait. Car ce n'était pas la beauté intrinsèque des choses qui me rendait miraculeux d'être dans le cabinet de Swann, c'était l'adhérence à ces choses, qui eussent pu être les plus laides du monde, du sentiment particulier, triste et voluptueux que j'y localisais depuis tant d'années et qui l'imprégnait encore. De même, la multitude des miroirs, des brosses d'argent, des autels à Saint-Antoine de Padoue sculptés et peints par les plus grands artistes, ses amis, n'étaient pour rien dans le sentiment de mon indignité et de sa bienveillance royale qui m'était inspirée quand Madame Swann me recevait un moment dans sa chambre où trois belles et imposantes créatures, sa première, sa deuxième et sa troisième femme de chambre, préparaient en souriant des toilettes merveilleuses et vers laquelle, sur l'ordre proféré par le valet de pied en culotte courte que Madame désirait me dire un mot, je me dirigeais par le sentier sinueux d'un couloir tout embaumé à distance des essences précieuses qui exhalaient sans cesse du cabinet de toilette leurs effluves odoriférants. Quand Madame Swann était retournée auprès de ses visites, nous l'entendions encore parler et rire, car même devant deux personnes, et comme si elle avait eu à tenir tête à tous les camarades, elle élevait la voix, lançait les mots comme elle avait si souvent dans le petit clan entendu faire à la patronne dans les moments où celle-ci dirigeait la conversation. Les expressions que nous avons récemment empruntées aux autres étant celles, au moins pendant un temps, dont nous aimons le plus à nous servir, Madame Swann choisissait tantôt celles qu'elle avait apprises de gens distingués que son mari n'avait pu éviter de lui faire connaître, c'est d'eux qu'elle tenait le maniérisme qui consiste à supprimer l'article ou le pronom démonstratif devant un adjectif qualifiant une personne. Tantôt de plus vulgaire, par exemple, « c'est un rien », mot favori d'une de ses amies, et cherchait à les placer dans toutes les histoires que, selon une habitude prise dans le petit clan, elle aimait à raconter. Elle disait volontiers ensuite « j'aime beaucoup cette histoire ». « Ah, avouez, c'est une bien belle histoire !» Ce qui lui venait par son mari des guermantes qu'elle ne connaissait pas. Madame Swann avait quitté la salle à manger, mais son mari qui venait de rentrer faisait à son tour une apparition auprès de nous. « Sais-tu si ta mère est seule, Gilberte ?»« Non, elle a encore du monde, papa. »« Comment encore ? À 7 heures, c'est effrayant. La pauvre femme doit être brisée. C'est odieux. » À la maison, j'avais toujours entendu dans « odieux » prononcer l'eau long. « Odieux ». Mais M. et Mme Swann disaient « odieux » en faisant l'eau bref. « Pensez, depuis 2 heures de l'après-midi, » reprenait-il en se tournant vers moi. Et Camille me disait qu'entre 4 et 5 heures, il est bienvenu 12 personnes. Qu'est-ce que je dis, 12? Je crois qu'il m'a dit 14. Non, 12, enfin, je ne sais plus. Quand je suis rentrée, je ne songeais pas que c'était son jour, et en voyant toutes ces voitures devant la porte, je croyais qu'il y avait un mariage dans la maison. Et depuis un moment que je suis dans la bibliothèque, les coups de sonnette n'ont pas arrêté. Ma parole d'honneur, j'en ai mal à la tête. Et il y a encore beaucoup de monde près d'elle? Non, 2 visites seulement. « Sais-tu qui ?»« Madame Cottard et Madame Bontemps. »« Ah, la femme du chef de cabinet du ministre des Travaux publics. »« Je sais que son mari est employé dans un ministère, mais je sais pas au juste comme quoi, » disait Gilberte en faisant l'enfant. « Comment, petite sotte, tu parles comme si tu avais 2 ans. Qu'est-ce que tu dis, employé dans un ministère? Il est tout simplement chef de cabinet. Et encore, où ai-je la tête, ma parole? Je suis aussi distrait que toi. Il n'est pas chef de cabinet. » Il est directeur de cabinet. Je sais pas, moi. Alors c'est beaucoup d'être le directeur du cabinet, répondait Gilberte, qui ne perdait jamais une occasion de manifester de l'indifférence pour tout ce qui donnait de la vanité à ses parents. Elle pouvait d'ailleurs penser qu'elle ne faisait qu'ajouter à une relation aussi éclatante, en n'ayant pas l'air d'y attacher trop d'importance. « Comment, si c'est beaucoup ?» s'écriait Swann, qui préférait à cette modestie qui eût pu me laisser dans le doute un langage plus explicite. « Mais c'est simplement le premier après le ministre. C'est même plus que le ministre, car c'est lui qui fait tout. Il paraît du reste que c'est une capacité. un homme de premier ordre, un individu tout à fait distingué. Il est officier de la Légion d'honneur. C'est un homme délicieux, même fort joli garçon. Sa femme, d'ailleurs, l'avait épousé envers et contre tous parce que c'était un être de charme. Il avait ce qui peut suffire à constituer un ensemble rare et délicat, une barbe blonde et soyeuse, de jolis traits, une voix nasale, l'haleine forte et un œil de verre. « Je vous dirai, ajouta-t-il en s'adressant à moi, que je m'amuse beaucoup de voir ces gens-là dans le gouvernement actuel, parce que ce sont les Bontemps de la maison Bontemps-Chenu, le type de la bourgeoisie réactionnaire, cléricale à idées étroites. Votre pauvre grand-père a bien connu, au moins de réputation et de vue, le vieux père Chenu qui ne donnait qu'un sou de pourboire au cocher, bien qu'il fût riche pour l'époque, et le baron Bréau-Chenu. Toute la fortune a sombré dans le krach de l'Union Générale. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, et dame, on s'est refait comme on a pu. C'est l'oncle d'une petite qui venait à mon cours, dans une classe bien au-dessous de moi, la fameuse Albertine. Elle sera sûrement très faste, mais en attendant, elle a une drôle de touche. Elle est étonnante, ma fille, elle connaît tout le monde. Je ne la connais pas, je la voyais seulement passer. On criait « Albertine par-ci, Albertine par-là ». Mais je connais Madame Bontemps, et elle ne me plaît pas non plus. Tu as le plus grand tort, elle est charmante, jolie, intelligente. Elle est même spirituelle. Je vais aller lui dire bonjour, lui demander si son mari croit que nous allons avoir la guerre, et si on peut compter sur le roi Théodose. Il doit savoir cela, n'est-ce pas, lui qui est dans le secret des dieux ? Ce n'est pas ainsi que Swann parlait autrefois. Mais qui n'a vu des princesses royales fort simples, si 10 ans plus tard elles se sont fait enlever par un valet de chambre et qu'elles cherchent à revoir du monde, et sentent qu'on ne vient pas volontiers chez elles, prendre spontanément le langage des vieilles raseuses et, quand on cite une duchesse à la mode, ne les a entendues dire « Elle était hier chez moi » et « Je vis très à l'écart ». Aussi est-il inutile d'observer les mœurs puisqu'on peut les déduire des lois psychologiques. Les Swann participaient à ce travers des gens chez qui peu de monde va. La visite, l'invitation, une simple parole aimable de personnes un peu marquantes étaient pour eux un événement auquel ils souhaitaient de donner de la publicité. Si la mauvaise chance voulait que les Verdurin fussent à Londres quand Odette avait eu un dîner un peu brillant, on s'arrangeait pour que, par quelque ami commun, la nouvelle leur en fût câblée outre-manche. Il n'est pas jusqu'aux lettres, aux télégrammes flatteurs reçus par Odette, que les Swann ne fussent incapables de garder pour eux. On en parlait aux amis, on les faisait passer de main en main. Le salon des Swann ressemblait ainsi à ces hôtels de ville d'eau où on affiche les dépêches. Du reste, les personnes qui n'avaient pas seulement connu l'ancien Swann en dehors du monde, comme j'avais fait, mais dans le monde, dans ce milieu guermante où, en acceptant les altesses et les duchesses, on était d'une exigence infinie pour l'esprit et le charme, où on prononçait l'exclusive pour des hommes éminents qu'on trouvait ennuyeux ou vulgaires, ces personnes-là auraient pu s'étonner en constatant que l'ancien Swann avait cessé d'être non seulement discret quand il parlait de ses relations, mais difficile quand il s'agissait de les choisir. Comment Madame Bontemps, si commune, si méchante, ne l'exaspérait-elle pas? Comment pouvait-il la déclarer agréable? Le souvenir du milieu guermante aurait dû l'en empêcher, semblait-il. En réalité, il y aidait. Il y avait certes chez les guermantes, à l'encontre des 3/4 des milieux mondains, du goût, un goût raffiné même, mais aussi du snobisme, d'où possibilité d'une interruption momentanée dans l'exercice du goût. S'il s'agissait de quelqu'un qui n'était pas indispensable à cette coterie, d'un ministre des Affaires étrangères, républicain un peu solennel, d'un académicien bavard, le goût s'exerçait à fond contre lui. Swann plaignait Madame de Guermantes d'avoir dîné à côté de pareils convives dans une ambassade, et on leur préférait 1000 fois un homme élégant, c'est-à-dire un homme du milieu guermantes, bon à rien mais possédant l'esprit des guermantes, quelqu'un qui était de la même chapelle. Seulement, une grande duchesse, une princesse de sang, dînait-elle souvent chez Madame de Guermantes, Elle se trouvait alors faire partie de cette chapelle elle aussi, sans y avoir aucun droit, sans en posséder en rien l'esprit. Mais avec la naïveté des gens du monde, du moment qu'on la recevait, on s'ingéniait à la trouver agréable, faute de pouvoir se dire que c'est parce qu'on l'avait trouvée agréable qu'on la recevait. Swann, venant au secours de Madame de Guermantes, lui disait, quand l'altesse était partie, « Au fond, elle est bonne femme, elle a même un certain sens du comique. Mon Dieu, je ne pense pas qu'elle ait approfondi la critique de la raison pure, mais elle n'est pas déplaisante. » « Je suis absolument de votre avis, » répondait la duchesse. « Et encore, elle était intimidée, mais vous verrez qu'elle peut être charmante. »« Elle est bien moins embêtante que madame, la femme de l'académicien bavard, laquelle était remarquable, qui vous cite 20 volumes. Mais il n'y a même pas de comparaison possible. » La faculté de dire de telles choses, de les dire sincèrement, Swann l'avait acquise chez la duchesse. Et conservé. Il en usait maintenant à l'égard des gens qu'il recevait. Il s'efforçait à discerner, à aimer en eux les qualités que tout être humain révèle, si on l'examine avec une prévention favorable, et non avec le dégoût des délicats. Il mettait en valeur les mérites de Madame Bontemps, comme autrefois ceux de la princesse de Parme, laquelle eût dû être exclue du milieu Guermantes, s'il n'y avait pas eu entrée de faveur pour certaines altesses et si, même quand il s'agissait d'elle, on eût vraiment considéré que l'esprit ait un certain charme. On a vu d'ailleurs autrefois que Swann avait le goût, dont il faisait maintenant une application seulement plus durable, d'échanger sa situation mondaine contre une autre qui, dans certaines circonstances, lui convenait mieux. Il n'y a que les gens incapables de décomposer dans leur perception ce qui au premier abord paraît indivisible, qui croit que la situation fait corps avec la personne. Un même être, pris à des moments successifs de sa vie, baigne à différents degrés de l'échelle sociale dans des milieux qui ne sont pas forcément de plus en plus élevés. Et chaque fois que dans une période autre de l'existence, nous nouons ou renouons des liens avec un certain milieu, que nous nous y sentons choyés, nous commençons tout naturellement à nous y attacher en y poussant d'humaines racines. Pour ce qui concerne Madame Bontemps, je crois aussi que Swann, en parlant d'elle avec cette insistance, n'était pas fâché de penser que mes parents apprendraient qu'elle venait voir sa femme. À vrai dire, à la maison, le nom des personnes que celle-ci arrivait peu à peu à connaître piquait plus la curiosité qu'il n'excitait d'admiration. Au nom de Madame Trombert, ma mère disait « Ah, mais voilà une nouvelle recrue et qui lui en amènera d'autres. » Et comme si elle eût comparé la façon un peu sommaire, rapide et violente dont Madame Swann conquérait ses relations à une guerre coloniale, maman ajoutait « Maintenant que les Trombert sont soumis, les tribus voisines ne tarderont pas à se rendre. » Quand elle croisait dans la rue Madame Swann, elle nous disait en rentrant « J'ai aperçu Madame Swann sur son pied de guerre. Elle devait partir pour quelque offensive fructueuse chez les Massachusetts, les Cingalais ou les Trombert. » Et toutes les personnes nouvelles que je lui disais avoir vues dans ce milieu un peu composite et artificiel, où elles avaient souvent été amenées assez difficilement et de mondes assez différents, elle en devinait tout de suite l'origine et parlait d'elle comme elle aurait fait de trophées chèrement achetés. Elle disait « Rapportée d'une expédition chez les Intel. » Pour Madame Cottard, mon père s'étonnait que Madame Swann pût trouver quelque avantage à attirer cette bourgeoise peu élégante et disait « Malgré la situation du professeur, j'avoue que je ne comprends pas. » Ma mère, elle, au contraire, comprenait très bien. Elle savait qu'une grande partie des plaisirs qu'une femme trouve à pénétrer dans un milieu différent de celui où elle vivait autrefois lui manquerait si elle ne pouvait informer ses anciennes relations de celles relativement plus brillantes par lesquelles elle les a remplacées. Pour cela, il faut un témoin qu'on laisse pénétrer dans ce monde nouveau et délicieux, comme dans une fleur un insecte bourdonnant et volage qui ensuite, au hasard de ses visites, répandra, on l'espère du moins, la nouvelle, le germe dérobé d'envie et d'admiration. Madame Cottard, toute trouvée pour remplir ce rôle, rentrait dans cette catégorie spéciale d'invités que maman, qui avait certains côtés de la tournure d'esprit de son père, appelait des « étrangers, va dire à Sparte ». D'ailleurs, en dehors d'une autre raison qu'on ne sut que bien des années après, Madame Swann, en conviant à ses jours cette amie bienveillante, réservée et modeste, n'avait pas à craindre d'introduire chez soi un traître ou une concurrente. Elle savait le nombre énorme de calices bourgeois que pouvait, quand elle était armée de l'aigrette et du porte-carte, visiter en un seul après-midi cette active ouvrière. Elle en connaissait le pouvoir de dissémination et, en se basant sur le calcul des probabilités, était fondée à penser que, très vraisemblablement, tel habitué des Verts du Rhin apprendrait dès le surlendemain que le gouverneur de Paris avait mis des cartes chez elle, ou que M. Verdurin lui-même entendrait raconter que M. Le Haut de Pressani, président du concours hippique, les avait emmenés, elle et Swann, au gala du roi Théodose. Elle ne supposait les Verdurin informés que de ces deux événements flatteurs pour elle, parce que les matérialisations particulières sous lesquelles nous nous représentons et nous poursuivons la gloire sont peu nombreuses par le défaut de notre esprit, qui n'est pas capable d'imaginer à la fois toutes les formes que nous espérons bien d'ailleurs, en gros, que simultanément elle ne manquera pas de revêtir pour nous. D'ailleurs, Madame Swann n'avait obtenu de résultats que dans ce qu'on appelait le monde officiel. Les femmes élégantes n'allaient pas chez elle. Ce n'était pas la présence de notabilités républicaines qui les avait fait fuir. Au temps de ma petite enfance, tout ce qui appartenait à la société conservatrice était mondain, et dans un salon bien posé, on n'eût pas pu recevoir un républicain. Les personnes qui vivaient dans un tel milieu s'imaginaient que l'impossibilité de jamais inviter un opportuniste, à plus forte raison un affreux radical, était une chose qui durerait toujours, comme les lampes à huile et les omnibus à chevaux. Mais, pareil au kaléidoscope qui tourne de temps en temps, la société place successivement, de façon différente, des éléments qu'on avait cru immuables et compose une autre figure. Je n'avais pas encore fait ma première communion que des dames bien pensantes avaient la stupéfaction de rencontrer en visite une juive élégante. Ces dispositions nouvelles du kaléidoscope sont produites par ce qu'un philosophe appellerait un changement de critères. L'affaire Dreyfus en amena un nouveau, à une époque un peu postérieure à celle où je commençais à aller chez Madame Swann, et le kaléidoscope renversa une fois de plus ses petits losanges colorés. Tout ce qui était juif passa en bas, fût-ce la dame élégante, et des nationalistes obscurs montèrent prendre sa place. Le salon le plus brillant de Paris fut celui d'un prince autrichien et ultra-catholique. Qu'au lieu de l'affaire Dreyfus, il fût survenu une guerre avec l'Allemagne, le tour du kaléidoscope se fût produit dans un autre sens. Les Juifs ayant, à l'étonnement général, montré qu'ils étaient patriotes, auraient gardé leur situation, et personne n'aurait voulu aller, ni même avouer être jamais allé chez le prince autrichien. Cela n'empêche pas que chaque fois que la société est momentanément immobile, ceux qui y vivent s'imaginent qu'aucun changement n'aura plus lieu. De même qu'ayant vu commencer le téléphone, ils ne veulent pas croire à l'aéroplane. Cependant, les philosophes du journalisme flétrissent la période précédente, non seulement le genre de plaisir que l'on y prenait et qui leur semble le dernier mot de la corruption, mais même les œuvres des artistes et des philosophes qui n'ont plus à leurs yeux aucune valeur, comme si elles étaient reliées indissolublement aux modalités successives de la frivolité mondaine. La seule chose qui ne change pas est qu'il semble chaque fois qu'il y ait quelque chose de changé en France.